Bonsoir à tous. Au moins 30 civils ont été tués et 23 autres blessés dans une attaque des éléments armés Mai Mai Luang à Luanga, en territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. Le drame a eu lieu entre 4h et 5h du matin de dimanche dernier lorsqu'un groupe d'hommes en armes a attaqué cette localité. Et puis cela fait qu'à plus de 40 jours depuis que l'accord politique issu du dialogue a été signé à la Cité de l'Union africaine. Cet accord prévoit entre autres la formation d'un gouvernement d'union nationale 21 jours après la signature, mais aussi et surtout la mise en place du comité de suivi qui devait, 30 jours après la signature de l'accord, tenir sa première séance de travail. Voilà les deux thèmes qui réunissent les journalistes ce soir. Et Joachim Diana, bonsoir.
Bonsoir, David.
Vous êtes éditeur du journal La Colombe qui paraît ici à Kinshasa. Joël Kadé, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères.
Vous êtes éditeur du journal Impact News, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Et au téléphone, nous avons en ligne Ali Boukassa, bonsoir.
Bonsoir chers confrères, bonsoir à Radio Okapi.
Et vous êtes journaliste à la radio communautaire Koutanté émettant à Mweneditu dans la province du Lomami. Et vous êtes aussi coordonnateur des journalistes communicateurs de la province du Lomami, LUCOM en sigle. Et je dis aussi bonsoir à Sylvain Matundu qui assure la mise en onde de cette édition. Et pour commencer, voici la revue de presse que nous présente Guy Maté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Le massacre de Luanga, le retard dans la mise en œuvre de l'accord politique, ainsi que l'examen du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2015 ont occupé les manchettes des journaux cette semaine. Aussi, la manifestation empêchée des jeunes de la Lucha et des Filimbi a aussi été la une de la presse kinoise. Ainsi, le potentiel titre, Nord Kivu, 36 civils tués dans une attaque des miliciens à Luanga, au sud du territoire de Lubero. Ce quotidien précise que les miliciens ont attaqué Luanga tôt dans la matinée, entre 4h et 5h du matin du dimanche. Ils ont commencé à attaquer la position des FRDC et pendant qu'ils attaquaient les militaires congolais, un autre groupe exécutait la population à l'arme blanche ou par balle, conclut ce journal. Sous le chapitre politique, Radio Capiponet rapporte que ça fait plus de 40 jours que l'accord politique a été signé à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Cet accord prévoit, entre autres, la formation des nouveaux gouvernements d'union nationale dans les 21 jours après sa signature, mais aussi la mise en place d'un comité de suivi de l'accord qui devait, 30 jours après la signature, tenir sa première séance de travail. Au sujet de la reddition des comptes, Forum des As informe que les rapports de la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2015 a énervé les députés nationaux. Et pour cause, le rapport révèle des dépassements criants et des cas de soupçons de détournement des fonds dans l'exécution du budget 2015. Pour sa part, le potentiel annonce que la RDC ouvre l'exercice 2017 sans budget. Ce journal note que le projet de budget conçu par Matata ayant été récalé, le Parlement attend celui de Sami Badibanga. Une attente qui pourrait s'avérer fatale sur le plan des finances publiques, dans la mesure où les échéances prévues dans l'accord politique du 18 octobre 2016, comme celles liées aux élections, devront être certainement modifiées à 15 jours de la fin de la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire. Il devient évident que la RDC va ouvrir l'exercice 2017 sans budget de l'État, conclut-il. La presse a aussi fait état de la manifestation empêchée samedi dernier. Les mouvements citoyens Lucha, Filimbi ainsi que des partis politiques comme le MLC n'ont pas pu procéder samedi 26 novembre au lancement de leur campagne dite « Bye Bye Kabila ». Comme promis, la police a occupé les endroits choisis par les organisateurs de cette manifestation pour faire respecter la décision prise par l'autorité provinciale interdisant cette activité. Par cette campagne, les organisateurs ont affirmé vouloir sensibiliser la population sur la fin du mandat du président Kabila le 19 décembre prochain. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté. Dans l'actualité, vous l'avez suivi sûrement, cher confrère. Depuis quelque temps, on assiste à la naissance des mouvements dits citoyens, constitués essentiellement des jeunes. Leurs revendications portent essentiellement sur des questions sociales, mais aussi et surtout sur les questions politiques. La lutte pour le changement, Lucha en sigle, et Filimbi par exemple, demande au chef de l'État de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième et dernier mandat, le 19 décembre prochain, conformément conformément à la Constitution. Le mouvement Oudjana, pour sa part, soutient le maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà de cette date, conformément, entre autres, aux résolutions de l'accord politique conclu en octobre dernier. Joachim, vous avez suivi cette effervescence des jeunes. Comment vous analysez cela?
Bon, en fait, moi, je m'y attendais. J'estime même que Oudjana est né tard. Il fallait déjà que ce mouvement naisse. Et peut-être que c'était... Il fallait d'abord...
Tard par rapport à quoi?
Hein?
Tard par rapport à quoi?
Tard par rapport à tout ce qu'il y a eu comme effervescence autour de Lucha et Filimbi.
Donc vous, la naissance d'Oudjana, c'est la réponse pratiquement à Lucha et Filimbi.
Je voulais dire ceci, c'est la compréhension d'une certaine logique. On a voulu nous faire croire qu'aujourd'hui, les partis politiques, les ONG des droits de l'homme, les ONG ceci, ne suffisent plus. Il faut que les jeunes, partout où ils se trouvent, ils se mettent ensemble, sans même qu'on sache qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils se donnent la légitimité de mener certaines actions au nom du peuple congolais, sans mandat. Et alors, on ne pouvait pas comprendre que, justement, on ne pouvait pas comprendre que cela soit un apanage, un domaine réservé d'une certaine jeunesse qui voudrait et le chaos et le département. Parce que vous avez appris, j'ai appris ce matin, leur objectif, c'est que qu'on doit confisquer tous les biens, tous les proches de Kabila. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous revenons à la pensée unique. Vous travaillez, Kabila, vous êtes en erreur. Donc tout le monde doit travailler avec l'opposition.
Donc pour vous, vous comprenez Oudjana, mais vous ne comprenez pas Lucha et Filimbi.
Non, j'ai dit ceci.
Mm-hmm.
Je comprends. Comme il y a la liberté de comprendre, que pour démontrer aussi qu'il n'y a pas que cette logique-là qui compte. Oudjana amène une autre logique. Oudjana équilibre, en fait, fait comprendre. Et j'estime que les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique donneront aussi les moyens à Oudjana, pour que Oudjana mène aussi, parce que nous sommes dans la démocratie, il y en a des points de vue différents.
Très bien. Alors, Joël Kadé, est-ce que vous pensez que les revendications de tous ces jeunes sont justifiées et fondées?
Chers confrères, nous avons eu 4 générations de jeunes dans notre pays. La première jeunesse, c'est celle de Lumumba qui a revendiqué l'indépendance du Congo. Il en a eu, mais malheureusement, il n'était pas suffisamment mature pour conserver ce qu'il avait réclamé. La deuxième, ce sont les jeunes qui sont morts dans les universités dans les années 68, 71. Et la troisième génération, c'est celle de Olingankoy et des autres qui ont réclamé la démocratisation de notre pays. Mais elle a fini par être corrompue par l'agression de notre pays avec la FDL qui a tout pris. Et cette jeunesse a fini par être corrompue. Ce sont les gens que vous avez comme les Mende, les Kinké qui ont pris le pouvoir à 30 ans, mais dont la gestion a été corrompue et ils ne peuvent rien faire. Et aujourd'hui, nous avons la 4e génération, c'est la Lucha, c'est Filimbi, dans lesquels nous mettons tout notre espoir pour obtenir l'alternance dans notre pays.
Oudjana,
c'est la ligue des jeunes du PPRD qui devrait chercher le changement.
Ils n'ont pas dit qu'ils étaient la ligue des jeunes du PPRD.
S'il vous plaît, très cher confrère, je suis journaliste de terrain, je suis jeune, je connais mes amis qui sont dans Oudjana, ce sont mes propres amis. Nous avons grandi ensemble, nous avons étudié ensemble avec eux à l'université de Lubumbashi. Vous ne pouvez pas m'apprendre du nouveau ici sur les antennes. J'ai Diana ici sur ses studios, il a dans certains médias traité la radio Okapi, des radios service des impérialistes. Lorsque son signal a été brouillé, il a acclamé, il a soutenu cela. Mais on est avec lui ici pour faire passer le message du bourreau de Radio Okapi. Donc c'est certainement pour vous dire que, écoutez, nous avons la 4e génération de jeunes. Et ces jeunes-là doivent obtenir non l'alternance, mais le changement dans tout le système. Parce que vous savez que Mobutu est parti, on croyait que c'était Mobutu le mal congolais. Aujourd'hui, les gens pensent que le combat qui est engagé, c'est contre Kabila. Non, c'est pas contre Kabila, c'est contre le système. Et le Filimbi, la lutte pour le changement, Lucha, c'est pour qu'on obtienne le changement de ce système pourri, de ce système des bradeurs, des vendeurs du patrimoine de l'État.
Donc en français facile, vous comprenez très bien la lutte de Filimbi et Lucha, mais vous refusez
papa,
carrément...
Papa, si Oudjana peut se battre, que Oudjana se batte au sein du PPRD pour obtenir le changement.
Très bien.
Et là-bas, on a pris les jeunes en otage, les jeunes ne s'expriment même pas. Papa.
Merci beaucoup, on vous redonnera la parole. Ali Boukassa, est-ce que chez vous, là-bas, dans la province de Lomami, on assiste aussi à cette effervescence, à cette activisme des jeunes?
Jusqu'ici, non. Très cher confrère, il faut dire déjà qu'avec mes deux confrères, jusque-là, je pourrais dire que c'est une analyse un peu épidermique. Ça ne va pas dans la profondeur. que la jeunesse soit du PPRD ou non, ou en dehors des partis politiques, ce qui est fondamental aujourd'hui, cet élément, cette interrogation, pourquoi on en arrive là? Rappelez-vous, quand on a une localité qui n'a qu'une seule marmite, alors tout le monde voudra bien tremper dedans. C'est comme ça aujourd'hui, le seul emploi, le seul secteur qui donne de l'emploi aujourd'hui à la société RD congolaise, se trouve être la politique. Voilà pourquoi, d'une manière ou d'une autre, par la porte comme par les claustras, les jeunes, les vieux, tout le monde entre par là, pourvu que l'on se trouve quoi mettre sous la dent. Je ne crois pas que la démarche de nos compatriotes jeunes soit sainte ou innocente des tâches politiques. Voilà ce qui est marrant, je crois. Même le président de la République, lors de son dernier passage au Parlement, donc je veux dire en congrès, il a eu à le dire qu'il ne fallait pas que l'on se fasse manipuler jeunes. En s'adressant à cette couche de la population, il a dit, il y avait même en étude une esquisse, un programme par rapport à l'encadrement, sinon à la vie socio-professionnelle même de la jeunesse. Moi, je crois qu'il faut voir la question de par sa cause et non à l'arrivée.
D'accord. Alors, très rapidement, vous dites que vous semblez comprendre que la jeunesse est manipulée. C'est de quelle jeunesse vous parlez? Est-ce la Lucha, Filimbi ou encore Ujana? Parce que ce sont les trois qui sont pratiquement en ligne de mire.
Que ce soit à gauche comme à droite, toute la jeunesse, quand vous suivez bien de plus près, avec des loupes, leur démarche, vous sentirez et vous verrez transparaître des ombres de géants derrière. Voilà pourquoi je dis encore, il y aurait manipulation, ce qui est grave. Et si les autorités, je veux dire, les responsabilités, les responsables ne prennent pas à bras le corps la chose, c'est que demain ou après-demain, on se rappellera de la date de ce jour.
Merci beaucoup. L'autre actualité de la semaine, c'est aussi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Quelques députés nationaux du groupe parlementaire UDPS et alliés ont plaidé mercredi pour des poursuites judiciaires à l'encontre du Premier ministre sortant Augustin Matata et quelques membres de son gouvernement, ce après examen du rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2015. Ce rapport révèle des dépassements criants et des cas de soupçons de détournement des fonds dans l'exécution du budget 2015. Joachim, comment vous avez analysé cette démarche de l'UDPS et alliés?
Bon, c'est l'UDPS et alliés qui mène la démarche. Je ne lui donne pas longue vue. Je pense qu'elle va s'arrêter à cul-de-sac. Mais quoi de plus normal que ça soit la démarche de l'OP? Quand déjà au niveau de l'Assemblée nationale, ça devient une activité partisane. C'est-à-dire que cette activité-là, il y aura une réaction. Lorsque vous menez une action politique, il faut vous attendre que votre adversaire politique vous défende. La question qui est là, elle est juridique. Il fallait que ce soit une affaire de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui porte plainte contre l'Assemblée. Mais si c'est seulement UDPS et alliés, ben, encore que ils sont en train de préparer la même tombe pour leur premier ministre qui vient d'être nommé après 2 ans, il devra.
Mais quand même, laissez-moi quand même rappeler que l'Assemblée nationale, après audition de ce rapport, avait prévu des sanctions administratives et c'est l'UDPS et alliés qui a estimé qu'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire passer même aux sanctions judiciaires.
C'est ce que j'ai dit. Les sanctions administratives, il faut les prendre. On va les prendre contre Matata qui est déjà parti. Je ne pense pas que Matata mérite encore aujourd'hui être encore passible aux sanctions administratives. La plupart des ADG dont on parle sont déjà aussi partis. Je ne vois quelles mesures administratives qu'on peut prendre contre eux. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il reste la justice. Si on, comme j'ai suivi le président de l'Assemblée nationale, il dit, ça reste ouvert, on peut prendre des mesures, on peut le traduire en justice. Vous savez, j'ai dit que ça ne soit pas une démarche partisane. Si ça devient une démarche partisane, elle n'aboutira pas. Mais si tous les députés comme un seul homme, estime que la faute est flagrante et qu'on porte plainte, ça serait une bonne chose. Mais bien sûr, tu voulais que je dise une chose pendant une seconde.
Oui, rapidement,
je constate que la plupart de nos amis de l'opposition médiatique, maintenant, quand ils viennent sur le plateau pour s'en prendre à Diane, ils ont abandonné la cible Kabila, maintenant c'est Diane. Mais j'apprends ici que moi, j'aurais exulté parce qu'on aurait suspendu certaines chaînes. Parce que sur Facebook, j'ai demandé aux confrères que nous puissions réfléchir sur la radio des Mille Collines. Ce journaliste rwandais-là, en faisant ce qu'il faisait, est-ce qu'il pensait faire la liberté, liberté d'expression? Réfléchissons sur la liberté d'expression.
D'accord.
Et voilà ce qu'il appelle avoir exulté.
D'accord.
Mais je pense que le Facebook est trop bas, mais moi j'essaie de m'élever même quand je suis sur le Facebook. Je ne peux pas suivre le chemin de M. Kadenda.
Merci, votre droit de réponse a été donné. Alors Joachim, comment vous avez analysé cette démarche? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit plutôt Joël Kadi? Je voulais parler de vous, Joël Kadi. Comment vous analysez la démarche de l'analyse plutôt que fait Joachim?
Mais vous l'avez senti déjà penché, parce qu'il a été objectif la dernière fois. D'ailleurs, certains auditeurs de Radio Capu l'ont félicité parce qu'il a été objectif en ce qui concerne la gestion Matata. Pour une seule école, mon confrère qui a mené du tout a loué Matata pour une école qui aurait été reconstruite ou réhabilitée à mené du tout. Mais une seule école à Selimbao, Pouloulou, 6 salles de classe, 5 500 000 dollars. Et pour partir avec une telle mégestion, il verrouille toutes les régies financières en y envoyant ses copains et ses potes. Et bien plus grave, cela démontre la légèreté de l'Assemblée nationale dirigée par Obé Minaku, qui a laissé une telle gestion pendant les 4 dernières années avec un tel homme dont la gestion a été très médiocre. Mais je crois qu'il y a lieu qu'on encourage la démarche. Il ne faudrait pas que parce que ça vient d'un député de l'UDPS, que Diana qui est l'UDPS ou qui sait qui dit tel qu'il l'appelle, puisse considérer que c'est partisan. Non ! C'est une démarche d'ensemble. Lui-là, il connaît comment il a été victime de la gestion Matata, même dans la régularité de son organe de presse qui était très régulier du temps de Mousito. Mais je pense qu'il y a lieu que ce qui n'est pas bon, qu'on le regarde objectivement pour dire Matata mérite d'être en prison, lui et ses potes.
Merci. Alors, Ali Boukassa, très rapidement, parce qu'on doit rentrer dans notre premier thème de la soirée, très rapidement, comment vous avez analysé cette démarche des députés nationaux?
Bon, voilà que j'ai été attaqué par le confrère Kadé Joël. Je n'ai pas été vraiment chantre du bilan de Matata. D'ailleurs, moi, je loue l'éternel et point barre. Sinon, je ne savais pas ignorer ce qui est fait ici à Mouré du tout. Quand bien même, c'est insuffisant. Quand même, il fallait noter que il y a quelque chose qui a été fait ici. Je suis journaliste, je me repose sur les faits. Et c'est un fait ici à Mouré du tout. Deux écoles du côté du territoire de l'île, je les ai vues et je ne pouvais pas les passer inaperçus. Quant à votre question, ma tante à la barre avec son équipe, bon, écoutez, d'abord c'est une démarche traditionnelle, un groupe de députés qui remarque qu'il y a de ça ne va pas, il faut que les soupçonnés, les présumés viennent s'expliquer, je crois que c'est la démarche folklorique, mais seulement j'aimerais que l'on réfléchisse sur l'élément moment. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que le moment est propice? Est-ce que le moment s'y prête pour que l'on privilégie ce qui va nous distinguer et même nous diviser davantage? Parce que là, nous sommes en train de courir derrière beaucoup de choses à la fois. Est-ce que cette démarche va nous apaiser, va apaiser l'environnement politique? Je ne sais pas, mais je dis que les députés de l'UDPS et alliés sont dans leur rôle de poursuivre, sinon de demander la poursuite judiciaire, c'est pas quoi, par rapport à XY qui a été à la charge publique. Donc c'est ce que je peux dire à ce stade des choses, mais dis-moi, on sait comment les démarches des députés de notre pays commencent. Ça commence comme ça avec tambour et ça se termine sur des pointes des pieds et même alors sur des bagarres.
Merci beaucoup et tout de suite nous entrons dans notre premier thème, mais laissez-moi vous rappeler que Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, paraissant à Kinshasa, Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa, et Ali Boukassa, journaliste à la radio communautaire Toutanté, mettant à Mweneditu dans la province de Lomami, et aussi coordonnateur des journalistes et communicateurs de la province de Lomami, UCOM en abrégé, sont les invités de Berry Franklin Lushaka dans la tribune de presse de ce vendredi 2 décembre 2016. Et nous voici dans notre premier thème du jour. Au moins 30 civils ont été tués et 23 autres blessés dans une attaque des éléments armés Mai Mai à Luhanga, en territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. Le drame a eu lieu entre 4h et 5h du matin de dimanche dernier lorsqu'un groupe d'hommes armés a attaqué cette localité. Reportage.
Cette information est confirmée par la société civile, mais aussi l'administration du territoire Bokele Joy. Selon lui, les éléments Mai Mai ont profité de l'insuffisance des éléments des FRDC dans cette localité pour opérer en toute quiétude. Pour Bokele Joy, la multiplicité des groupes armés dans la zone est à la base de l'insécurité qui règne dans le territoire. Bokele Joy.
Nous avons l'impression sur la population. Il faut comprendre que quand on a dans une entité des groupes armés, on est dans une situation d'insécurité, et dans une situation d'insécurité, ce sont des appareils qui peuvent arriver.
L'ONG Cercle International de Défense des Droits de l'Homme et de l'Environnement, CEPADO, qualifie cet acte de violation grave du droit international. Pour son secrétaire exécutif, l'auditeur supérieur militaire doit ouvrir une action publique contre tous les responsables de sécurité militaire et civile pour n'avoir pas sécurisé la population. Derrick Kamba Munyamwami.
Ce sont des violations graves des droits internationaux qui doivent être réprimées par la loi. Nous pensons que l'auditeur supérieur militaire doit déclencher une action publique contre tous les responsables des services de sécurité civils et militaires qui sont sur le lien, qui n'ont pas été en mesure de sécuriser la population.
Signalons que c'est la deuxième attaque sur Luanga au courant de ce mois de novembre. Lors de la première attaque, plusieurs maisons de cette localité et de ses environs avaient été incendiées. Goma, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Merci Marc. Un deuil de 4 jours a été décrété par la communauté Hutu en date du lundi 28 novembre dernier. Première question à vous messieurs, comment vous avez accueilli ce nouveau massacre? Parce que c'est le deuxième, comme on l'a bien su, on l'a entendu dans le reportage. Joachim.
Bon, mais écoutez, moi d'abord, la première remarque que je ferai, c'est qu'on n'appelle pas ces gens-là des Mai Mai. Lorsque je sais l'objectif des Mai Mai, savons pourquoi les Mai Mai sont nés. Les Mai Mai, c'était pour protéger les territoires contre l'occupation extérieure. Mais qu'aujourd'hui, qu'il y ait des gens qu'on appelle des Mai Mai qui tuent la population civile innocente, non, on doit leur trouver un autre nom.
Mai Mai Mazembe.
Mazembe là, mais qu'on enlève les noms de Mai Mai, qu'on leur trouve un autre nom, Mazembe. Mais les appeler Mai Mai, ça dénature tout. Bon, mais j'ai toujours dit que le jour où partout on va me suivre et qu'on va percer le mystère de ces assassinats, on va me donner raison. Je dis ceci. Comment des Mai Mai, des ressortissants du coin, peuvent-ils sortir en un jour, tuer des papas, des mamans, des enfants, qu'ils côtoient parfois la journée? Ils les tuent et bien fait, ils disparaissent. Même les Boko Haram. Les Boko Haram ont un objectif religieux. Mais ces gens-là, ils ont quel objectif? Alors je me suis toujours dit qu'il s'agit de politiciens. Et certains politiciens qui sont dans l'ombre, dont on n'entend plus parler, mais qui voudraient créer la psychose dans ce coin, qu'ils considéraient comme leur chasse gardée, ils créent la psychose, même en diminuant le nombre d'électeurs, mais pourvu que quand ils viendront, même s'il reste 5 personnes, que ces 5 personnes les accueillent comme des libérateurs.
Très bien. Alors, Joël Kadet, comment vous avez analysé ce nouveau massacre?
Confrère, je n'ai jamais été d'accord que l'on appelle les ADF Nalu ceux qui y ont tué les Nandé dans la province du Nord Kivu. Ça démontre
qu'il
y a l'absence de l'État dans cette partie de la province, et c'est un échec pour lequel vous avez vu par exemple en France un président qui avait promis que je vais changer la courbe de chômage, quitter la course vers la présidentielle. Et c'est ce qui devrait être fait chez nous, parce que la paix a été promise à nos frères ici qui ont d'ailleurs voté au-delà de 100, 210% le régime en place. Je crois qu'il y a lieu que l'on puisse corriger cela et que l'État reprenne. Et si ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui dirigent la province du Nord Kivu, sont dans l'incapacité d'accorder la paix à nos frères et qui sont dans cette partie du pays, qu'ils puissent tout simplement rendre le tablier.
Ali Boukassa, comment vous avez analysé ce massacre à partir de chez vous à Moniditou?
Ah, très cher confrère Berry, déjà un mort fait la préoccupation de toute une population. La ville de Moniditou, c'est toujours une ville très hospitalière et compatissante. J'aimerais rappeler ici que dans la trentaine, parmi la trentaine de nos compatriotes morts, il y a 11 enfants innocents qui partent comme cela. Dimanche, 4h, 5h, les gens s'apprêtent peut-être pour aller à l'église et voilà comment la suite est réservée. Seulement, disons ici et maintenant, d'abord bravo aux services de sécurité parce que sur place localement nous apprenons que les présumés auteurs seraient déjà, certains seraient aux arrêts et que une démarche judiciaire se serait déjà ouverte, ce qui est une très bonne chose. Si on peut aller jusqu'au bout, ça pourrait tellement produire des effets escomptés jusqu'ici parce que quand il y a des vies comme ça, il faut que la justice soit rendue. Au-delà de ça, voyons aussi les causes, parce que j'ai suivi l'administrateur de territoire de Lubero, M. Bokel, qui disait qu'il y a eu aussi insuffisance des militaires, donc insuffisance numérique des militaires, ce qui est un peu marrant, parce que dans une zone comme celle-ci, où des groupes irréguliers, ça donne à des aventures regrettables, il y a aussi ce devoir de gonfler un peu les effectifs pour mettre la population dans les conditions sécuritaires. Aussi, un autre élément un peu particulier, c'est que Berry, l'incident est arrivé, comment c'est géré? On vous dit par exemple que pour que les dégâts soient arrêtés, soient limités, il a fallu l'intervention des casques bleus de la MONUSCO, le contingent indien. On vous dit également que même pour évacuer les blessés, il a fallu encore la même force. L'enterrement s'est passé à l'absence du gouverneur de la province du Nord Kivu, également du représentant du gouvernement central.
Et la population était dans la crainte.
Toute cette combinaison d'absence et d'éléments pose question. Est-ce qu'il y a crise d'amour? Est-ce qu'il y a crise de pouvoir? Est-ce qu'il y a crise de volonté dans le Nord Kivu pour gérer cette histoire d'insécurité? Voilà ce qui a poussé, même ce qui aurait même poussé un des compatriotes localement, qui a même dit, me référant au capi.net, le compatriote aurait dit, je ne veux pas reproduire tous ces mots, on tue, on nous tue et le gouvernement vient nous consoler. On nous tue et le gouvernement nous apporte la compassion. Alors, si nous ne sommes pas congolais, mieux vaut nous relocaliser.
Merci.
Voilà, c'est très important et c'est une alerte et même une interpellation.
D'accord. Alors, je reviens ici en studio. Joachim, est-ce qu'on peut parler du conflit Hutu-Nande dans cette partie du pays?
Bon, mais j'ai suivi les premiers à monter au créneau, c'était les Hutu, avec leur communauté, représentants de leur communauté ici.
Et qui avaient même décrété un deuil national, un deuil plutôt.
Et les autres ont répliqué pour démontrer que il ne s'agit pas des populations Hutu et Nande qui s'affrontent, mais un groupe armé.
C'est pour ça que vous affirmez qu'il y a des politiciens derrière
ça. Tout à fait. Il y a du groupe. Et l'objectif, vous l'avez entendu dans tous les discours de Kadendanga, même dans ce que notre confrère de Moniditou dit là-bas. C'est cela l'objectif. Démontrer que, effectivement, ici nous sommes abandonnés, qu'on nous délocalise, et ainsi de suite. S'il y a demain quelqu'un qui vient avec le discours, qui en fait, si le pyromane revient, il devient sapeur-pompier, alors il sera acclamé et c'est lui qui sera le sauveur.
Mais pourquoi vous dites qu'il y a des politiques derrière ça? Qu'est-ce qui doit être fait finalement pour éviter tout ça?
Moi, je pense qu'on doit aider certains politiciens à enlever les masques. On doit les forcer à enlever les masques. Et ils sont là.
Donc il faut vraiment une volonté politique.
Mais tout à fait. Il faut qu'on enlève les masques. Il y a un parti politique qui joue un mauvais rôle là-bas. Les gens, le gouverneur l'avait déjà dénoncé et la population de ce côté-là le dénonce. Mais malheureusement, la justice congolaise est obligée d'y aller avec des pincettes alors qu'il fallait enlever les masques pour tout ça. Demander les populations qui disent le gouvernement vient nous consoler. Voilà déjà que le fait qu'il n'y ait pas eu un représentant du gouverneur à l'enterrement, on se plaint. Qu'il parte, non, ça ne sert à rien, on vient nous consoler. Moi, non, je pense qu'on doit vouloir ce que nous voulons, savoir ce que nous voulons. Le gouvernement doit être en symbiose avec ça. Si on soulève la population contre les dirigeants, on ne résoudra jamais ce problème.
Très bien. Joël Kadi, est-ce que vous pensez que ce conflit pourra durer?
Il va durer aussi longtemps que l'objectif dernier n'est pas atteint. L'objectif dernier, c'est quoi? C'est vider tous ces espaces occupés par les autochtones. Ceux qui vont réoccuper dans 2, dans 10 ans vont réclamer leur autonomie.
Dans vos propos, vous aviez évoqué la faillite finalement de l'État congolais. Qu'est-ce qui doit être fait finalement? Parce qu'il faut trouver des solutions.
Non, ce qui doit être fait, si le plan de la balkanisation ou le plan de vider. Parce que, Béry, permettez-moi de vous montrer comment c'est gentil.
Rapidement.
On peut vous tuer à une balle, dans 30 secondes vous êtes mort, mon frère. Mais ces gens viennent, ils vous coupent les doigts. Ils vous coupent. D'abord, ils commencent par violer vos propres enfants.
À votre présence.
Et on vous oblige de les regarder. Et puis, on commence à dépiécer votre propre enfant et on tue à demi-feu avec
d'accord,
une douleur la plus atroce. Tout simplement, c'est pour dire quoi? Que vous vidiez les espaces, partez, laissez les espaces vides. Aujourd'hui, je crois, j'étais en train de blaguer avec un de vos confrères ici quand je suis entré. J'ai dit, il n'y a plus de village. Tout simplement pour vous dire que l'objectif, c'est quoi? Que l'on vide les lieux. Ce n'est même pas du terrorisme, comme mon confrère a dit ici. Boko Haram, non. Boko Haram a un objectif. Mais l'objectif là-bas, c'est que nos frères, là, les autochtones, n'aient plus leur village. Et demain, après-demain, les gens vont réoccuper. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec un gouvernement qui paraît complice ou incapable? On ne peut pas espérer avoir encore la solution avec ce gouvernement.
Non, il n'y a pas de solution.
Il n'y a plus de solution. Il faudrait connaître quelqu'un, un leadership visionnaire,
tant au niveau national
que provincial.
Même restaurer l'autorité de l'État.
C'est impossible, parce que combien de fois il y a eu les ministres qui lui ont fait le défilé là-bas, le chef de l'État qui a fait, à peine qu'il est parti, on a tué.
D'accord. Ali Boukassa, qu'est-ce qui peut être utilisé comme solution efficace pour mettre fin à ce genre de conflit entre les communautés ou pratiquement pour restaurer la paix à l'est du pays?
Il faudra, je sais, et je me dis que les autorités, tant provinciales que nationales, doivent avoir déjà la photographie, la cartographie de ce qui se passe sur place. C'est à ces autorités de se rappeler qu'elles viennent de la population. On est en train de dessiner toute une population là-bas. C'est à elles de trouver, vous savez, nous sommes sur un média très écouté, c'est pas ici qu'il faudra peut-être jeter ou cracher certaines stratégies non plus, mais seulement, il faut rappeler ici que, à voir les choses comme elles évoluent, il y a lieu de parler de crise, soit de crise de pouvoir, de crise d'amour ou de crise de volonté dans les camps concernés.
Et là, je rejoins carrément Joachim qui estimait qu'il faut une volonté politique pour vraiment mettre fin à ce genre de conflit, à ce genre de massacre. La volonté politique, selon vous, viendrait de qui précisément?
Vous savez, un chef de renseignement de Kinshasa est moins informé qu'une population d'un quartier ici à Monibitou. C'est que c'est la population, ses dirigeants locaux et ses dirigeants centraux qui doivent communier pour trouver et coudre une stratégie afin de dégager la contrée de la RDC qui aujourd'hui continue à pleurer ses morts.
Merci beaucoup et tout ce que nous entendons dans notre deuxième thème de la soirée qui concerne l'application de l'accord politique. Et cela fait plus de 40 jours depuis que cet accord issu du dialogue a été signé à la Cité de l'Union africaine. Cet accord prévoit entre autres la formation d'un gouvernement d'union nationale 21 jours après la signature, mais aussi la mise en place du comité de suivi qui devait 30 jours après la signature de cet accord tenir la première séance de travail. Des précisions avec vous, Jeff Ngoy.
Selon l'article 17 de cet accord, les parties prenantes au dialogue se sont accordées qu'il sera procédé dans les 21 jours de la signature de l'accord à la formation d'un nouveau gouvernement. L'article 14, pour sa part, indique que dans 20 jours, la CENI devait préparer un budget détaillé pour l'ensemble du processus électoral et le soumettre au gouvernement. Le même texte dit que le comité de suivi du dit accord devait tenir sa séance de travail inaugurale et adopter un règlement intérieur un mois après sa signature. Le retard est bien remarquable. Le premier ministre nommé continue les consultations pour la formation du gouvernement. Le comité de suivi n'est toujours pas en place. La majorité présidentielle soutient que la mise en œuvre de l'accord a été déjà amorcée par le chef de l'État avec la nomination d'un premier ministre. Il faut plutôt demander à ce dernier ce qu'il attend pour former le gouvernement, affirme un membre de cette plateforme. L'opposition politique estime que le non-respect des dates est une habitude des Congolais. Mais ce qui compte, confie Steve Mbikai, c'est la boutique heureux du processus électoral. La société civile pense que la formation d'un gouvernement requiert du temps. En ce qui concerne la CENI, le président de cette institution, Corneille Nangaa, confirme avoir déjà soumis au gouvernement sortant le budget détaillé des élections.
Merci Jeff Ngoy. Joachim, est-ce que vous avez constaté aussi le retard?
Oui, mais je ne suis pas affolé pour cela.
Ok.
Je dis ceci. Au dialogue, l'important, c'est un dialogue qui a été tenu pour que les élections aient lieu dans le délai qui a été fixé. Et le maître dans tout cela, c'est lui qui doit travailler, c'est la CENI. Tant que la CENI est en place et que la CENI travaille, moi, je ne m'affole pas. Berry peut s'affoler parce qu'il s'attendait à être gouvernement. Le temps passe. Au lieu d'avoir des emoluments pendant un certain long temps, ben, ça sera raccourci. Oui, mais c'est pas ça l'objectif des Congolais.
Mais que répondez-vous à ces analystes qui estiment que la culture du respect des textes pose problème dans notre pays?
Je ne vois pas le non-respect des textes. Le gouvernement est formé par le Premier ministre. Et le Premier ministre s'y est déjà mis. Compte tenu de nos réalités, il suffirait aujourd'hui.
Mais il est nommé depuis il y a presque deux semaines.
Hein? Oui, justement.
Et jusqu'aujourd'hui, dans la saison du gouvernement.
Il a consulté les gens. On a. Les différentes parties ont envoyé leurs listes. Et maintenant, on doit faire des arbitrages.
Très bien.
Imaginez-vous qu'on n'ait pas fait les arbitrages. Et on va dire oh, on a trouvé 40 Rwandais dans ce gouvernement. On a trouvé des Burundais. Et qu'ils font les services. On ne vérifie pas. Quand on vérifie, on dit non, on prend trop de temps.
D'accord.
Moi, je pense qu'on doit prendre tout le temps possible pour que. On respecte la constitution qui demande que le gouvernement soit représentatif.
Donc ça signifie qu'on peut attendre même jusqu'à fin des.
Mais je ne pense pas que la semaine qui commence va se terminer sans que ce gouvernement soit.
Merci beaucoup Joël. Kadir, à quoi attribuez-vous ce retard?
Le retard est attribué parce qu'on ne veut pas écouter les sages de ce moment et de ce temps. Je l'ai dit sur vos antennes la fois passée, Nazem Nazembe est arrivé dans ses concertations, dans les dialogues. Il avait proposé la démocratie consensuelle qui soit adopté comme un mode de gestion de la transition, un même mode où tout le monde se retrouve. Les gens ont refusé de l'écouter et voilà là où nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les gens refusent de respecter le texte. Vous l'avez posé comme question à Diana, il n'a pas répondu.
Mais Diana dit qu'il n'est pas affolé.
Non, s'il vous plaît, Diana n'est pas. Écoutez, quand vous avez convenu le texte, vous avez convenu les dates, il faut les respecter. Alors, qu'est-ce qui vous rassure que les gens qui ont eu difficile à respecter la constitution qui a été promulguée par le chef de l'État, adopté au Parlement, promulgué par le chef de l'État après avoir été voté au référendum, qu'ils peuvent mettre en pratique ce qui a été convenu entre 300 personnes d'ailleurs, qui n'ont pas été acceptées par tout le monde. Cela démontre qu'il y a incapacité et même au mois d'avril 2018, autant que ça a été impossible d'organiser les élections ou de convoquer les corps électoraux le 19 septembre 2016, il sera difficile de convoquer les corps électoraux en 2018.
Très bien.
Nous sommes ensemble et vous allez voir là où nous allons tendre, c'est vers quoi? C'est vers la révision de la Constitution ou éventuellement vers le changement de la Constitution, vers la burundisation
d'accord,
de la situation congolaise. Mais aujourd'hui, heureusement, le peuple congolais peut être en paix.
Très bien.
Parce que c'est comme s'il s'est dessaisi de cette affaire de non-respect de texte pour le laisser dans la gestion de la communauté internationale qui est en train de prendre les textes, les sanctions. Donc, le peuple congolais s'est dessaisi.
Et
laisse le pouvoir entre...
Je vais vous redonner la parole, Joël Kadé. Ali Boukassa, certains analystes estiment que ce retard est causé, entre autres, par des négociations entre la majorité et le rassemblement. Est-ce que vous partagez cet avis?
Tout à fait. Je suis pour cet aspect des choses ou cette analyse, parce que Berry, il faut dire ici que je ne me suis jamais dit, même en rêve, que le dialogue avait pris fin. Parce que peut-être que le gouvernement serait déjà là, au brio, mais on attend les quelques négociations en musique ici, par la CENCO, ainsi de suite, pour que le gouvernement qui va sortir soit un gouvernement d'apaisement, un gouvernement qui va apaiser les uns et les autres et permettre à la nation congolaise de terminer l'année 2016 et entamer avec sérénité celle de 2017. Je me dis quand même, d'abord, ce décalage, sinon ce retard dans l'application, ne surprend pas un averti, parce que on sait que les Congolais, nous, on est champions en bon texte, mais quand il faut les appliquer, écoutez, on trouve toujours des alibis à gauche, à droite.
Alors,
ceux-là même qui les ont causés sont ceux-là même qui donnent des raisons comme quoi il faut tenir compte de cela ou de ceci. Est-ce que quand vous couchiez cela par écrit, vous ne vous rendiez pas compte qu'il y avait toutes ces réalités-là?
Très bien. Donc, alors, en guise de conclusion, que... puisque vous, on arrive déjà à la fin de notre émission, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire pratiquement pour que les acteurs politiques tiennent parole et respectent les textes qu'ils signent eux-mêmes?
Ah, écoutez, d'abord, le respect, c'est le respect de la parole, le respect de la loi commence par une dimension subjective. Si vous ne savez pas respecter votre parole, à combien plus forte la loi. Donc tout ce qu'on veut, c'est que notre classe politique puisse se dépasser et se comporter en classe politique d'État et non des chefferies et des ethnies.
Merci beaucoup, ce sera votre conclusion, Joël Kadé. Joachim, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que vous avez bien entendu que c'est la culture du respect des textes qui pose problème, si bien que vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Non, mais je me demande ce qu'on appelle respecter les textes. Le texte est en train d'être respecté. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'il y a un décalage. Vous vous rendez compte qu'il y a eu le problème de coupage, personne ne se préoccupait. On s'en est préoccupé. Et quand on a découpé, les gens estimaient même pourquoi on a découpé. Mais il y a certains. Il y a des gens qui ont leurs intérêts, même ceux qui étaient au dialogue, qui ont fait un délai plus court parce qu'ils voulaient vite aller aux affaires.
Donc pour vous, même
maintenant, il y a la réalité de terrain.
Les négociations qu'entretiennent la CENCO, pour vous, ce n'est pas.
Je pense que. C'est une distraction de plus. Et on doit faire attention. L'opposition a refusé le calendrier électoral proposé par la CENI. On leur a laissé, mais aujourd'hui, l'opposition accuse ceux qui avaient accepté le calendrier d'avoir empêché la tenue des élections. Demain, si les élections ne se tiennent pas en avril, ni la CENCO va se retourner avec ses amis du rassemblement pour rejeter la faute à ceux qui ont été au dialogue.
En conclusion,
on doit aller de l'avant. Je ne pense pas que la semaine qui vient va se terminer sans convaincre. Si on n'est pas prêt, il faut que le gouvernement sorte pour qu'on aille de l'avant. Si la CENCO veut créer un nouveau dialogue avec le rassemblement, ils n'ont qu'à le faire, je ne sais pas, suivant...
Mais ce sont les bons offices qui sont encouragés même par le chef de l'État.
Mais pour le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit devant le Congrès? Qu'est-ce que la CENCO lui avait fait comme rapport?
D'accord.
Pourquoi avoir fait ce rapport et continuer? Ça, c'est une digression. La CENCO devrait commencer par signer l'accord elle-même. Alors, si tant qu'elle n'a pas signé, on risque de mettre devant la même CENCO derrière vous comme vautour pour vous dévorer parce que vous n'avez pas tenu les élections dans le délai alors qu'elle participe au retard.
D'accord, merci beaucoup. Ce sera aussi votre conclusion, Joël Kadé, en guise de conclusion.
Dernièrement, c'est juste pour dire... Ceux qui ont été incapables de mettre en application la Constitution de la République, qui l'ont violée, violentée, qui l'ont massacrée et qui l'ont même enterrée, ne sauront pas être d'accord pour cet accord politique convenu entre 300 personnes. Ce qui est vrai, aussi longtemps que ça n'a même pas été signé par le chef de l'État, il ne se sent même pas obligé par ça. Vous avez entendu toutes les tractations, toutes les gymnastiques françaises qui ont été faites par mon grand frère, mon frère Kakwata ici sur vos antennes. Ça s'est abouti dans l'eau. Donc c'est justement pour vous dire que même en 2018 là, les élections sont encore hypothétiques, il n'y a pas la volonté d'organiser les élections dans ce
pays. Vous êtes tellement pessimiste à ce point.
En tout cas, ça a été fait et ça sera fait.
D'accord, merci, c'est ça la fin aussi de cette tribune de presse. Merci à Sylvain Matundu qui était à la prise de son, Guy Maté qui a coordonné cette édition, supervisée par Martin Sebou-Jangwe, Berry Franklin Luchaka vous dit merci et remercie aussi Joël Kadedanga, Joachim Diana et Ali Boukassa pour avoir participé à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro de tribune de presse. Ce sera vendredi prochain, mais lundi, ce sera avec le Dialogue entre Congolais et toute l'équipe du magazine. Bonne soirée et surtout, bon week-end à tout le monde.